J'aimerais dire merci à la logistique, à Nicolas et Vincent, et puis à mon mari qui a arrangé le PowerPoint, parce que je ne suis absolument pas douée en informatique. Voilà. Alors, le titre de mon message, c'est « Vivre le miracle de la réconciliation ». Ce matin, je vous propose de réfléchir à la question des relations humaines. Vous êtes certainement d'accord avec moi que c'est très simple, les relations humaines. Tout baigne, pas de problème. D'accord ? À quoi ça vous fait penser ? Soyons réalistes. Qui n'a pas connu dans sa vie des difficultés de relation avec un proche, un ami, un collègue de travail, un membre de l'Église? Jésus aborde la question des relations humaines dans les chapitres 5 à 7 du Sermon sur la montagne. Et Nicolas m'a demandé de commenter aujourd'hui avec vous les versets 21 à 26 du chapitre 5. Je vous avoue que c'est un défi redoutable. Avant d'entrer dans la méditation de ces 6 versets, j'aimerais présenter leur contexte. Nous sommes donc dans le Sermon sur la montagne, un discours qui débute par les magnifiques béatitudes. Heureux ceux qui sont doux, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui sont purs de cœur, etc. Au début du mois de juillet, Nicolas a médité ce thème en rapport avec le royaume des cieux. Il y a 3 mois, quelques-uns d'entre nous, nous avons écouté ces magnifiques paroles sur le mont des béatitudes. C'est émouvant de lire ces textes sur la terre où Jésus a prononcé ces paroles. Probablement les plus belles paroles prononcées sur la terre. Après avoir prononcé les béatitudes, Jésus dit aux disciples qu'ils sont le sel de la terre, qu'ils sont la lumière du monde, qu'ils sont les héritiers du royaume. Waouh ! Par ces paroles, Jésus inaugure une nouvelle manière de vivre la relation avec Dieu et avec les autres. Mais la tentation est alors forte de croire que tout est nouveau et que les exigences de la loi sont abrogées. C'est pourquoi dans les versets 17 à 20, Jésus remet les points sur les « i » et rappelle que la loi n'est pas abolie. Il est venu pour l'accomplir. Alors nous allons lire ses pensées. « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Ou en vérité, je vous le dis, en effet, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota ou un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Dès lors, celui qui transgressera un seul de ses plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Ce passage est une déclaration générale de Jésus sur son attitude à l'égard des lois de l'Ancien Testament. Jésus donne des exemples précis sur la manière dont il interprète la loi de l'Ancien Testament. La loi n'est pas abrogée, et en même temps, la véritable attitude chrétienne n'a rien de commun avec le légalisme des scribes et des pharisiens. Le légalisme des pharisiens consistait à croire qu'il suffisait d'appliquer un certain nombre d'exigences pour plaire à Dieu, du genre de ne pas allumer une lampe le jour du sabbat, de ne pas cuisiner, de ne pas guérir le jour du sabbat. La véritable attitude chrétienne se caractérise par l'engagement à faire la volonté de Dieu. C'est une spiritualité du cœur, car Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Dès lors, le chrétien examinera la validité des lois de l'Ancien Testament à la lumière de l'enseignement de Jésus. Voyons maintenant l'ensemble du discours de Jésus. Il comprend 5 unités d'enseignement. Chacune de ces unités est introduite par l'expression « Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. » Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne manqueras pas à tes promesses, œil pour œil et dent pour dent, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. La suite. Quiconque regarde une femme de façon à la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous ne devez pas jurer du tout et vous ne devez pas vous opposer au mauvais. C'est fort, ces paroles. Et Jésus résume son enseignement par « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Cette série d'enseignements montre comment Jésus interprète la loi. Jésus décrit une nouvelle manière d'être chrétien qui vit de la justice qui lui est donnée par Dieu. Cette justice produit une vie nouvelle qui est concrètement manifestée par des actes et des attitudes précises. Et cet enseignement de Jésus concerne l'essentiel de notre vie, nos relations les uns avec les autres, la famille, l'argent, le travail. J'en viens maintenant aux versets qui m'ont été attribués. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui traitera son frère de raca ou de fou sera passible du Sanhédrin. Celui qu'il traitera de fou sera passible de la géhenne de feu. Si donc tu vas présenter ton offrande sur l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi vite avec ton adversaire, pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et que tu ne sois mis en prison. Amen, je te le dis, tu ne sortiras pas de là avant d'avoir payé jusqu'au dernier cadran. Dernier centime. Tu ne commettras pas de meurtre, mais moi je vous dis. Cette parole de Jésus contraste avec le discours des pharisiens. Pour les pharisiens, celui qui tue mérite d'être puni par les juges, car le crime doit être sanctionné. Vu sous cet angle, seuls ceux qui ont du sang sur les mains sont condamnables. Mais Jésus ne s'attache pas seulement à l'acte extérieur, mais aussi aux sentiments qui engendrent l'acte. Il déclare que la colère, la haine, dire à son frère qu'il est fou ou insensé, sont condamnables devant Dieu. Un tribunal humain ne peut pas évaluer la colère et la haine qui se cachent dans nos cœurs, mais Dieu, lui, sonde nos cœurs. Et pourquoi condamne-t-il la colère, le mépris? Parce qu'ils sont destructeurs. Ils méprisent le frère, l'abaissent et lui font mal. Le 6e commandement reste donc actuel. Mais Jésus va au-delà de l'acte de tuer. Il en dévoile les motivations. Nous sommes alors tous concernés, même si nous n'avons pas de crime sur les mains. Il n'est pas nécessaire de prendre un pistolet pour tuer quelqu'un. On peut tuer quelqu'un psychologiquement, en l'ignorant, en le rabaissant, en lui disant qu'il est fou, qu'il est incapable, un bon à rien, un idiot, ou bien le calomnier auprès des autres. L'exemple de Caïn est intéressant. Caïn a tué son frère Abel. Mais Jésus nous dit que ce qui fait de Caïn un meurtrier, c'est d'abord d'avoir laissé monter en lui des pensées meurtrières. C'est d'ailleurs ce que le texte nous dit. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu fâché? Pourquoi es-tu renfrogné? Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et son désir se porte vers toi. À toi de le dominer. » En d'autres termes, Dieu dit à Caïn, laisse aller ta colère, laisse aller ton désir de vengeance. Or, Caïn refuse cet avertissement. Il est meurtrier dans son cœur avant d'avoir tué son frère. Ce sont ces sentiments de colère et de jalousie à l'égard d'Abel qui ont fait de Caïn un meurtrier avant qu'il ne passe à l'acte. La colère contre un frère était déjà condamnée dans le Lévitique au chapitre 19, verset 17. « Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur, tu avertiras ton compatriote, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune envers les gens de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. » Geste, paroles, sentiments de colère et de mépris dirigés contre mon frère. Dans le sens de frère, moi je vais au-delà, c'est mon frère et ma sœur en humanité aussi. Donc gestes, paroles, sentiments de colère et de mépris dirigés contre mon frère méritent la réprobation et le châtiment de la gêne, nous dit Jésus. Pourquoi? Parce qu'il me sépare de la communion avec Dieu et de la communion avec mon prochain. Et cette séparation rend mon culte et ma prière inauthentiques. Après avoir prononcé cette sévère condamnation, la condamnation à la gêne de celui qui se met en colère contre son frère, Jésus expose le cœur de son message. Réconciliez-vous, réconciliez-vous. Et voilà le texte, donc, j'y reviens. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse. En grec, ce verbe est le même que celui de pardonner. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier. L'étymologie du verbe réconcilier en grec, c'est échanger. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. C'est mon mari qui m'a donné ces termes en grec parce que je ne le sais pas. C'est tellement important de se réconcilier. Et c'est possible parce que Dieu nous a pardonné. Parce que Dieu nous a pardonné, nous pouvons demander pardon et nous pouvons accorder notre pardon. La réconciliation, d'une certaine manière, c'est le résumé de l'abîme, le thème central des Écritures. Mais d'abord, que veut dire se réconcilier? Ça veut dire reconstruire les liens qui ont été brisés. La réconciliation a deux dimensions. Il y a la réconciliation avec Dieu et celle avec notre prochain. Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Mais ce n'est pas tout. Parce que je suis réconcilié avec Dieu, je peux me réconcilier avec mon prochain. La réconciliation fait partie de notre vie de chrétien. Se réconcilier demande des efforts et de l'humilité de la part de l'offenseur et de l'offensé. Il faut reconstruire une confiance réciproque pour pouvoir renouer les liens qui ont été rompus. L'offenseur doit reconnaître ses torts, demander pardon et s'engager à changer d'attitude. Et l'offensé accepte de pardonner et de ne pas retenir de griefs contre celui qui l'a blessé. S'il tient des griefs, ce n'est pas une réconciliation. J'aimerais noter quand même que des personnes qui n'ont aucune référence à Dieu sont aussi capables de reconnaître leur tort et de se réconcilier. Ce n'est pas l'apanage du chrétien seulement. Ce qui est frappant dans cet enseignement, c'est que Jésus s'adresse à un offenseur qui est en train de servir Dieu dans le temple. Jésus dit à cette personne qu'il est plus important qu'il se réconcilie avec celui qui l'a offensé que de poursuivre sa prière dans le temple. Il y a là comme une inversion qui place la relation humaine avant le service de Dieu. C'est comme si la relation avec le frère était plus importante que celle avec Dieu. Jésus dit « Va d'abord te réconcilier ». La réconciliation avec le frère va être la preuve de la qualité de la relation avec Dieu. Si tu n'aimes pas le frère que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas, nous dit l'apôtre Jean dans sa première épître au chapitre 4, verset 20. Il y a là, de la part de Jésus, un retournement audacieux qui invite à interrompre le sacrifice au temple pour se réconcilier avec celui que nous avons offensé. Par notre demande de pardon au frère, nous pouvons l'empêcher de tomber dans la colère, dans l'amertume ou la vengeance. Si nous venons au culte écouter la parole et recevoir la Sainte Cène avec un cœur non réconcilié avec Dieu et avec mon frère, nous sommes sous le jugement de Dieu, nous dit Jésus. C'est prendre la scène indignement. C'est pour cela que Paul nous exhorte à nous examiner nous-mêmes, car Dieu regarde au cœur plus qu'à l'acte liturgique. Nous voyons l'importance que Paul attribue à la réconciliation entre frères autour de la Sainte Cène. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 17, il va plus loin en nous disant que Dieu nous a confié au cœur du monde le ministère de la réconciliation. Dans un monde fracturé, s'il en est, le chrétien peut être porteur d'un message de réconciliation et de gestes de réconciliation. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Je veux vous partager le témoignage d'une réconciliation. J'ai accompagné en prison pendant 4 ans un homme qui avait tué sa femme. C'est un homme très distingué, socialement haut placé, un homme de pouvoir. Il a même dû changer son nom de famille pour être protégé des autres détenus à l'intérieur de la prison. Il avait des enfants au seuil de l'adolescence qui ont dû être placés en foyer car il n'y avait pas de famille pour les accueillir. Sa villa a été vendue sans qu'il puisse récupérer quoi que ce soit. Cet homme était dans une détresse profonde, rongé par la culpabilité. Il réalisait l'horreur de son geste et toutes ses conséquences, pour ses enfants en particulier. Après un long partage, un long chemin, j'ai pu lui parler de la grâce de Dieu, de son amour et de son pardon. Par l'aumônier du service, j'ai pu lui offrir le livre sur la guérison des souvenirs. Je l'ai encouragé à rester régulièrement en lien avec ses enfants, à s'intéresser à ce qu'il faisait. Et s'il avait construit un lien avec ses enfants durant toute la vie qu'il a vécue avec eux, il les retrouverait à sa sortie de prison. En parlant de sa sortie de prison, je lui ai demandé « Qu'est-ce que vous direz à vos enfants quand vous les reverrez ?» Il me répond « Je vais leur expliquer ». Je lui ai répondu « Non, vous allez d'abord leur demander pardon, car c'est eux qui ont payé le prix le plus élevé. » À sa libération, je lui ai téléphoné et il m'a dit « j'ai retrouvé mes enfants, je leur ai demandé pardon et ils vont bien. L'autre partie du texte, c'est « Arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et que tu ne sois mis en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. » Ici, Jésus insiste sur l'urgence d'une réconciliation avant que les choses ne s'enveniment. En effet, un tort non réparé peut créer une situation explosive et peut, en termes humains, mener au tribunal ou en prison. Par exemple, les successions et les héritages mal gérés peuvent conduire au tribunal, même dans les églises. Nous connaissons une situation où un héritage mal géré a coûté plus de 250 000 francs d'honoraires d'avocat. Les abus, les adultères peuvent engendrer de graves blessures, voire des crimes. Évitons le tribunal, nous dit Jésus. Cette exhortation résulte d'un bon sens. Mais nous avons de la peine à l'entendre, car nous sommes convaincus de notre bon droit et de la malveillance de notre adversaire. Or, ce que nous dit Jésus, c'est que la situation est souvent plus difficile que nous le croyons. Notre adversaire n'a pas toujours tort, notre bon droit n'est pas toujours aussi bon que nous le croyons, et une procédure devant le tribunal risque bien de nous coûter très cher. Va voir ton adversaire. C'est ce qu'a vécu une personne que j'ai accompagnée en relation d'aide. Il s'agit d'une femme mariée avec des enfants. Elle n'était pas issue d'une famille chrétienne. À l'adolescence, elle a été abusée par son père. Dès qu'elle a eu terminé ses études, elle a coupé les liens avec sa famille. Dans le contrat que nous faisons, je lui demande si elle est d'accord que j'introduise la dimension spirituelle dans l'accompagnement, ce qu'elle accepte. Après tout un cheminement concernant l'abus et ses conséquences, je lui parle de la restauration que le Seigneur peut lui apporter et lui demande si elle peut pardonner à son père. Un pardon dans le sens du lâcher-prise, ce qu'elle fait. Le lâcher-prise, c'est pour être libéré de la colère, du ressentiment, c'est pour soi-même. Puis je lui parle de la réconciliation, qui est une toute autre démarche que le lâcher-prise. On ne peut vivre une réconciliation que si la personne qui a blessé demande pardon à l'offensé. Et je lui dis qu'un jour, si elle le désire, elle pourrait vivre une réconciliation avec son père. Nous nous quittons. Quelques mois plus tard, elle me téléphone et me raconte qu'un jour, elle se trouvait dans la rue. Elle a tout à coup une sorte d'illumination et a décidé d'aller voir son père. Elle lui a téléphoné et elle lui a dit qu'elle désirait lui parler. Elle l'a senti très réticent, mais elle a insisté. Alors, elle s'est présentée devant lui et a pu lui dire les souffrances qu'elle a vécues et les conséquences que son abus avait eues sur sa vie. Son père a reconnu qu'il avait fait souffrir. Elle lui a dit à ce moment-là « Je te pardonne ». Les liens ont été reconstruits. Ça, c'est le miracle de la réconciliation. Si nous voulons marcher en communion avec Dieu et vivre et rayonner l'amour du Christ, personnellement et en communauté, nous pouvons, grâce à l'amour et à la miséricorde que Dieu a pour nous, vivre le miracle de la réconciliation. C'est aussi le signe du royaume de Dieu. Que Dieu nous aide et nous éclaire par son esprit. Amen.